France Inter.
Simply throwing 6,000 students out because they're angry about a fight on other issues, that is not the way we do things in a democratic country like the United States. This is vicious, it is illegal, it is unwise, and it is very damaging.
Mettre à la porte 6000 étudiants étrangers, ça n'est pas digne d'une démocratie comme les États-Unis. C'est brutal, c'est illégal, c'est imprudent et c'est très dommageable. Larry Summers, l'ancien ministre des Finances de Clinton et président émérite de Harvard, s'en étrangle sur Bloomberg. Il fustige la guerre culturelle de Donald Trump contre ces grandes universités américaines aux idées trop progressistes ou alors trop à gauche pour le camp républicain. L'administration Trump, elle avait déjà gelé 2 milliards de subventions à Harvard. Depuis, elle a demandé une liste des étudiants étrangers. Donnez-moi les noms. Et dernier palier franchi, ce jeudi, l'interdiction de les accueillir. Tout cela, prévient Summers, aura un coût. Alors d'abord, à très court terme, le pays compte plus d'un million d'étudiants étrangers. Il paie plein pot les très coûteux frais de scolarité, subventionnant ainsi les études des étudiants locaux. Appartements, restaurants, les élèves venus d'ailleurs injectent 44 milliards de cette manière dans l'économie, nous dit aussi une étude, sur l'année scolaire 2023-2024. Et pour 3 étudiants étrangers accueillis, eh bien c'est un emploi direct, créé ou préservé. Et puis Harvard, franchement c'est l'excellence, un élément du soft power américain. Les USA qui ne se soucient plus d'attirer les meilleurs, l'Amérique pourrait perdre son avantage comparatif. Car le lien entre immigration, innovation et croissance est positif. Étudiants ou pas, les États-Unis ont fait des immigrants des gens qui ont créé plus d'une licorne sur deux. On parle des startups valorisées au-dessus du milliard de dollars. Et dès hier, Hong Kong a fait savoir qu'il ouvrait grand les bras aux étudiants déboutés. En écrivant ce billet, je ne peux pas non plus m'empêcher de penser au plus célèbre étudiant de Harvard, Mark Zuckerberg, qui a rencontré sur le campus Priscilla Chan, sa future femme, une fille d'immigrés chinois qui avait fui le Vietnam. Elle est devenue une pédiatre renommée et le patron de Meta, lui, milliardaire soucieux de ses affaires, est désormais devenu affidé zélé de Trump, le démolisseur d'Harvard.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
Bienvenue, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Alors samedi, c'est déjà une bonne nouvelle, mais samedi où on parle d'économie, excellente nouvelle. Nous avons préparé cette conversation toute la semaine avec le coproducteur de l'émission, Valentin Pérez, Joseph Ascal, notre chasseur de son, Étienne Bertin et Céline Hilla, nos réalisateurs. Rémi Sistiaga a fait les mix et Tilaï Ravou tient les commandes de la technique. Il sera donc question de matières premières ce matin. Les matières premières, c'est tout ce qui est extrait ou produit par la nature. Nous parlerons donc de riz, ou plutôt de la pénurie de riz au Japon, avec notre correspondante Karine Nishimura. Nous zoomerons aussi sur le prix du café, vous entendrez le reportage de Timothée David, et puis donc la course mondiale aux métaux. Notre invitée, c'est la femme à la tête du groupe minier Eramet, le nickel, le lithium. Face à l'appétit chinois pour les métaux stratégiques, comment protéger notre souveraineté? L'interview de Christelle Bory, ce sera dans une demi-heure. Et puis Sandrine Foulon nous fera entrer dans les coulisses du monde du travail. Bonjour Sandrine.
Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde.
Robert, notre auditeur vous a écrit.
Oui, une question sur les congés. Son employeur lui impose de prendre 10 jours de vacances à date fixe par an. Est-ce légal?
Ah, la réponse Robert, ça sera en fin d'émission. Mais d'abord, le débat, l'actualité économique passée au crible ce matin par Sophie Fay, ma consoeur du quotidien Le Monde. Salut Sophie.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Et Patrick Artus, conseiller senior chez Ossiam. Hello Patrick.
Bonjour Alexandra.
Alors, quand on voit l'actualité et les taxis, on se dit que ça va être compliqué de tailler, de faire des économies sur la protection sociale. Nous, ce matin, nous allons parler du financement plus global et nous sommes bien en mesure de vous dire que le serpent de mer est bel et bien ressorti de sa tanière. Je parle de la TVA sociale, une piste que le gouvernement étudie. Donc, préparons-nous au retour de ce débat qu'Emmanuel Macron a relancé pour de bon.
Je souhaite que le gouvernement, avec les partenaires sociaux, réforme le financement de notre modèle social.
Emmanuel Macron.
Qu'on ait un modèle social qui soit moins financé par le travail et davantage sur d'autres facteurs, en particulier la consommation. Parce que quand on regarde nos voisins, certains taxent davantage la consommation. La consommation, c'est les touristes qui les payent. C'est parfois les entreprises avec les chèques restaurants, c'est les gens les plus aisés. Je pense que c'est mieux.
Le gouvernement, encore une fois, cède à tous les caprices du patronat.
Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT.
Nous sommes très inquiets des velléités patronales et gouvernementales parce que ça s'appelle la TVA sociale, ou plutôt même la TVA antisociale. Bah évidemment, le mot les dérange, mais en réalité, c'est ça, puisque ça veut dire que les patrons ne paieraient plus ou moins, en tout cas, la protection sociale et que ça reposerait sur la consommation, bah ça s'appelle la TVA.
Personne, ni le président de la République, ni le gouvernement, n'a parlé de TVA sociale.
Éric Lombard, ministre de l'Économie.
Ma position, c'est de laisser le débat se développer entre les partenaires sociaux, entre les partenaires politiques, sur une façon de modifier le financement de notre modèle social. C'est l'occasion d'alléger les charges qui pèsent et sur les entreprises et sur les salaires. C'est-à-dire que ça peut être aussi une façon de redonner du pouvoir d'achat, notamment aux bas salaires. Donc, il faut trouver un financement alternatif.
On doit générer de la croissance.
Patrick Martin, président du MEDEF.
Il y aurait deux gagnants dans cette affaire, la compétitivité et salaire net. L'État lui-même serait bénéficiaire, puisque les entreprises ont plus de résultats, elles paieraient plus d'impôts sur les sociétés. Les importations supportent la TVA, les exportations non. On a 80 milliards de déficit commercial parce que nos entreprises ne sont pas assez compétitives. De ce fait, donc, c'est vertueux dans tous les sens.
Voilà que le MEDEF nous propose la vieille idée de la TVA sociale qui a pour premier effet de venir ponctionner le budget des ménages.
Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste.
Et là, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, vos pâtes, votre viande, votre huile ont beaucoup trop augmenté. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est que désormais, on va rajouter le prix dans votre caddie. Mais est-ce que quelqu'un, sérieusement, pense que ça va aider les Françaises et les Français?
Il n'y a pas que la TVA sociale.
Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des centres Leclerc.
Aujourd'hui, les robots, on en a dans nos entrepôts, il y en a dans les banques pour trier les billets. Enfin, il y a des robots partout. Hein, sans être Blade Runner avec des réplicantes, on est aujourd'hui entouré de robots. Les entrepôts ne payant pas de charges sociales, on peut imaginer que la robotique paye une part de charges sociales.
Et parlons d'abord, avant de parler des robots, de la TVA sociale. Sophie Fay, je me tourne vers vous. Est-ce que tout le monde y pense?
Alors, tout le monde travaille dessus. Le gouvernement, pour l'instant, préférerait que ce soit les partenaires sociaux qui arrivent à une solution, parce qu'ils pensent que toute réforme de ce type, qui est une réforme majeure sur les prélèvements, sera difficile à faire passer au Parlement et à l'Assemblée nationale, alors que si ça arrive par les partenaires sociaux, il y a peut-être un petit espace, le chat d'une aiguille, pour pouvoir faire voter cette réforme. Et cette réforme, eh ben, elle transformerait François Bayrou en réformateur et pas seulement en Premier ministre qui passe un coup de rabot sur les dépenses publiques.
Qui doit trouver 40 milliards, oui.
Voilà, donc vous avez entendu les propos d'Éric Lombard, il est assez prudent, mais en fait, à Bercy, on fait tourner les modèles de la Direction Générale du Trésor pour voir quelles seraient les répercussions d'une hausse de TVA et d'un transfert des cotisations vers la TVA, et on le fait aussi à la direction de la Sécurité sociale. Ça fausse fort aussi, on l'a vu au sein du patronat, hein, le MEDEF...
Ah oui, et là en revanche c'est sur la table, oui, ils le disent franchement. Oui.
Voilà, le MEDEF travaille dessus très précisément, et l'UDP ou la CPME ont lancé le débat plutôt dans l'année.
Dès l'automne, octobre-novembre, oui.
Évidemment, tous les économistes, hein, les organismes économistes comme l'OFCE, travaille aussi dessus, et même le Conseil d'orientation des retraites, donc voilà.
Donc il faut se préparer au débat.
C'est très sérieux, il faut se préparer au débat.
Patrick Artus, on va démarrer avec vous, on va remonter quand même au début du questionnement, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un consensus pour dire que le financement de la protection sociale repose trop sur les cotisations liées au salaire, repose trop sur le travail?
Oui, je crois qu'il y a ce consensus. Financé par des cotisations sur les salaires, des dépenses d'assurance, par exemple les dépenses de protection contre le chômage, les dépenses de maladie, etc. C'est complètement raisonnable. Mais il y a un certain nombre de dépenses sociales qui devraient être financées par un impôt beaucoup plus large. Par exemple, les allocations familiales ou les dépenses liées à la dépendance. Et donc, il y a un grand consensus pour dire qu'il faut financer une partie de la protection sociale, celle qui n'est pas vraiment un comportement d'assurance contre un risque, par un impôt beaucoup plus large que les cotisations sociales.
Ensuite, il y a le débat, ça c'est le fond. Tout le monde veut bien discuter du sujet. Et après, il y a comment on fait?
Alors d'abord, il faut savoir ce qu'on veut faire. Parce qu'il y a un choix d'abord de baisser. Alors si vous faites une hausse d'autres impôts et une baisse des cotisations sociales, il y a deux choix. C'est est-ce que vous baissez les cotisations sociales des salariés ? Et auquel cas, vous arrivez à une hausse du pouvoir d'achat des salariés. Alors, la base de la réflexion, c'est que vous transférez des cotisations sociales sur un impôt dont la base est beaucoup plus large. Donc, soit la TVA, soit la CSG. Parce que la TVA ou la CSG taxent les salaires, mais taxent les retraites, taxent les revenus du capital, taxent les revenus des indépendants. Et donc, c'est un impôt à base beaucoup plus large. Donc, si vous transférez X milliards des cotisations sociales à la TVA, par exemple, vous augmentez le pouvoir d'achat des salariés par un prêt sur les autres personnes. Et donc, il y a un débat baisse des cotisations sociales des salariés ou des employeurs, et il y a un débat TVA ou CSG. Alors, juste rapidement, si vous baissez les cotisations sociales des salariés, bah, vous faites une mesure de pouvoir d'achat des salariés. Si vous baissez les cotisations sociales des employeurs, vous faites une mesure d'augmentation des marges bénéficiaires et peut-être de suppléments, de choc d'offre favorable avec les effets possibles d'un choc d'offre favorable. Si vous augmentez la TVA, vous avez un effet d'imposition sur une base plus large, mais vous avez un effet de dévaluation, parce que comme il a été dit dans la présentation du sujet, la TVA ne frappe pas les exportations, elle frappe les importations. Et si vous augmentez la CSG, vous avez un effet de base d'impôt plus large, mais vous n'avez pas de dévaluation. Certains de mes collègues n'aiment pas l'idée de profiter de ça pour faire une dévaluation, parce que c'est une dévaluation par rapport aux autres pays de l'euro, quoi. Et donc, c'est une politique assez agressive vis-à-vis des Allemands, des Italiens, etc.
Sophie Fay, donc tout dépend. En fait, cet outil, on l'a entendu dans le ZAP, tout le monde en parle, mais on ne sait pas vraiment quel outil peut être préféré. Le patronat, si j'ai bien entendu Patrick Martin, dit « ça sera bon pour les entreprises et ça sera bon pour les salariés ». On nous fait miroiter une espèce de gagnant-gagnant pour tout le monde.
Alors je vais vous dire, moi, la manière dont je vois ça en ce moment, c'est que c'est le mistigris. En gros, tout le monde veut gagner, donc tout le monde veut repasser à l'autre le financement de la dépense. Donc c'est un peu ce jeu. On est d'accord sur le fait que depuis les années 90, quand on regarde ce que paye l'entreprise pour un salaire, entre ce que paye cette entreprise, ce qu'on appelle le super brut, les cotisations patronales, salariales et le salaire, et ce que touche le salarié, l'écart s'agrandit et le salarié touche de moins en moins. Donc ça, on est d'accord qu'il faudrait transférer peut-être des cotisations pour remonter les salaires.
Mais le salaire net, tout le monde dit qu'il faudrait remonter le salaire net, que le travail paie mieux.
Voilà, mais c'est pas ce qu'on est en train de discuter. Il y a autant, si vous voulez, chaque acteur du débat à sa propre volonté. Il y en a qui disent qu'il faudrait faire payer plus les retraités. Mais on ne peut pas dire on va faire payer les retraités parce que sinon, ils vont être mécontents, ils vont pas voter pour nous, ils vont descendre dans la rue peut-être, comme on l'a vu quand on a transféré déjà des cotisations sur la CSG au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Et donc on veut le faire discrètement. Mais c'est bien mistigris qu'on passe... qu'on enlève sur les salaires pour le repasser aux retraités. Les entreprises veulent un choc d'offres, donc ils veulent moins de cotisations sociales, mais ils veulent le repasser aux consommateurs, donc c'est bien un mistigris qu'on repasse. Certains, comme Gabriel Attal, où on entendait Éric Lombard dans le ZAP, veulent augmenter les salaires nets. Donc là, on repasse le mistigris à qui ? Et puis, il y en a d'autres qui disent tout simplement augmentons la TVA, qu'on appellera TVA sociale, parce que ça bouchera le déficit de la sécurité sociale, ou tout simplement, ça nous aidera à réduire les déficits tout court. C'est un impôt hyper efficace et tout de suite on parle de montants très importants, beaucoup plus que sur les autres, puisque vous savez que quand on augmente la TVA de 1 point, de 1%, on fait rentrer 12 milliards tout de suite, 12 à 13 milliards de rentrées fiscales. Si on ne touche pas aux taux les plus bas, puisque vous savez que la TVA a des niveaux différenciés selon les produits, c'est beaucoup moins sur les produits alimentaires, moins sur les livres, beaucoup moins encore sur les médicaments, et bien dans ce cas-là, on fait rentrer 8 milliards d'euros.
Patrick Artus, est-ce qu'on sait, quand on dit faisons la TVA sociale, est-ce que les économistes s'interrogent sur combien il faudrait chercher de milliards, de combien il faudrait faire diminuer les cotisations sur les salaires, qu'elles soient patronales ou salariales, et pour faire augmenter la TVA de l'autre côté, de combien ?
Bon, Un objectif assez raisonnable, ça serait de ne plus financer les dépenses liées à la famille, parce qu'elles profitent à tous les Français, quel que soit leur statut professionnel. Et donc les dépenses de famille, c'est 33 milliards d'euros. Donc partons de l'idée qu'il faut faire un transfert des cotisations sociales vers un autre impôt pour 33 milliards d'euros. Alors, il n'est pas question d'augmenter, si on transfère sur la TVA, il est très difficile d'augmenter les taux intermédiaires ou bas de TVA qui financent les dépenses de médicaments, d'énergie, d'alimentation. Donc c'est le taux normal de TVA de 20% qui serait augmenté. Et donc il faut, enfin, comme l'a dit Sophie, ça, à un point de taux normal de TVA, ça rapporte 8 milliards. Donc il faut augmenter de 4 points le taux normal de TVA. Donc de passer de 20 à 24%. Ouais. Et pour annuler les cotisations, enfin pour financer les cotisations familiales par cet impôt.
Et ça, c'est acceptable? Non, question un peu bête, mais ça, socialement, on peut se demander si c'est acceptable.
Et ça financerait, en fait, à peu près aussi 4 points de baisse des cotisations, alors soit salariales, soit employeurs. Alors, il faut ensuite rentrer dans la mécanique économique, parce que si vous baissez les cotisations salariales, bah, effectivement, vous avez un effet positif de pouvoir d'achat, mais vous avez un effet négatif sur toutes les autres populations. Mmh. Donc, hausse du pouvoir d'achat des salariés, baisse du pouvoir d'achat des retraités, des indépendants et des entreprises. Donc, effectivement, le MEDEF ne veut pas ça. Si vous baissez les cotisations sociales des employeurs, l'inquiétude, c'est l'utilisation que feront les employeurs de cette baisse de cotisations sociales. D'abord, s'ils baissent les prix, bah, il n'y a pas de choc d'offre. Et si baissent les prix en raison de la baisse des taux de cotisation, bah, il n'y a pas de choc d'offre. C'est une mesure qui n'a pas d'effet d'offre. Donc évidemment, le patronat veut avoir un choc d'offre. Donc, baisse des cotisations sociales des employeurs sans baisse des prix des produits. Et donc, ça fait effectivement une hausse des profits. Et donc, cette hausse des profits est très mauvaise pour les salariés parce que ça veut dire que vous avez une hausse des taux de TVA de 4 points et pas de baisse des prix des produits et donc une perte de pouvoir d'achat.
Oui, là sont les salariés
et donc,
qui...
Dans les simulations des modèles qui sont à la disposition de l'administration, de fait, cette mesure est très négative pour le pouvoir d'achat des salariés parce qu'il y a une petite baisse de prix pendant 2 ou 3 ans.
Sophie Fay ?
Alors, ce qu'on voit, c'est que ça finit toujours par peser sur le pouvoir d'achat. Il y a eu des exemples en Allemagne, on voit qu'à la fin, ça pèse sur le pouvoir d'achat. C'est bien pour ça que les syndicats, à part la CFTC qui a laissé une petite porte ouverte, sont contre ce projet. On voit aussi que la gauche en général est plutôt contre cette idée de TVA sociale et le RN aussi, donc on n'est pas certain du tout qu'il y ait une majorité ou une voix pour le faire. Et puis ils ne sont pas contre pour rien, ils sont contre parce que c'est l'impôt le plus régressif, en gros c'est l'impôt sur la consommation,
la TVA, oui.
Donc plus on consomme une part importante de son salaire, c'est-à-dire la totalité voire plus pour les ménages les plus modestes, plus on paye cet impôt et plus on épargne d'argent, moins on en paye, même si plus on a des hauts revenus, plus on paye proportionnellement la TVA, puisque plus on dépense aussi. Donc, ça pose un problème. Le deuxième effet de bord, c'est que pour l'instant, c'était l'impôt pour lequel on était un peu bon élève dans l'Union européenne. C'était le seul impôt où on était un petit peu en dessous des autres. Donc ça nous donne peut-être une petite marge pour monter. On est à 20%. Le taux moyen dans l'Union européenne, c'est 21,8%. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est une taxe sur nos voisins. Ce qu'il faut voir, c'est que quand vous regardez, par exemple, toutes les régions frontalières, c'est assez positif pour eux parce qu'elles bénéficient de tourisme grâce à la TVA. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on va pénaliser l'économie. Et puis, on agite un chiffon rouge en face de Donald Trump, qui est déjà très énervé par cette taxe, au moment où il faut qu'on soit unis entre Européens pour se battre contre ces doigts de douane.
Sophie Fay et Patrick Artus, qui réfléchissent encore beaucoup sur l'intérêt de cette TVA sociale, j'ai l'impression. Ils ont fait le débat de ce samedi 24 mai.
Real Decreto Ley para la ampliación de derechos de deindustrialisierung
und Unemployment and lower job
creation.
L'écho en VO, en version originale, c'est le moment où nous partons regarder comment l'économie tourne ailleurs. Nous voici au Japon. Le ministre de l'Agriculture annonce sa démission.
Le
L'heure de vérité arrive concernant le prix du riz, voilà ce que dit Takueto. Est-ce que je suis encore la bonne personne pour diriger les opérations ? J'ai jugé que tel n'était sans doute pas le cas. Bref, il démissionne. Quelle est donc cette heure de vérité ? Il nous faut des explications. Bonjour Karine Nishimura.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Vous êtes correspondante de France Inter au Japon. Alors Karine, la démission du ministre de l'Agriculture, c'est la version officielle, parce qu'en réalité, Takueto, il a été limogé. Mais alors pourquoi parle-t-il d'un moment de vérité ?
Eh bien tout simplement parce que les mesures prises jusqu'à présent face à une très grave crise de hausse des prix du riz n'ont pas donné de résultat. Le gouvernement a beau puiser tant et plus dans les réserves stratégiques d'État pour augmenter l'offre, cela ne suffit pas à stopper l'inflation. Or, si le prix du riz ne rebaisse pas rapidement, le gouvernement joue sa peau aux élections sénatoriales de juillet. C'est donc la dernière chance. Alors il faut savoir qu'un sac de riz de 5 kilos qui valait à peine 13 euros l'an passé coûte actuellement plus de 26 euros. Or, cela est dû, selon les experts, au refus du gouvernement de reconnaître que la politique menée a conduit à une pénurie. Car selon eux, si les prix augmentent, eh bien c'est tout bonnement parce que la production ne suffit pas, mais le ministre Eto n'a cessé d'affirmer le contraire.
Karine, en fait, au sujet du riz, les erreurs de politique économique datent de bien plus longtemps.
Et oui, cette pénurie qui a débuté l'an passé est la conséquence d'une politique qui dure depuis des décennies et de plusieurs facteurs conjoncturels récents concomitants. Alors, il y a trois décennies, la production de riz était jugée trop abondante comparée à la consommation. Donc, le gouvernement a appliqué une politique de contrôle de la production et incité les riziculteurs à reconvertir leurs terres. Officiellement, cette politique de contrôle a pris fin en 2018, mais dans la pratique, elle a continué et il y a en outre une baisse du nombre d'agriculteurs parce qu'ils sont trop âgés ou parce que ça ne rapporte plus. Or, il s'est produit récemment un regain inattendu de la demande en raison notamment du boom de la gastronomie japonaise et du nombre de touristes étrangers au Japon, mais le gouvernement ne l'a pas vu venir. Et augmenter la production n'est pas simple. Si les autorités optent à la place pour des importations, eh bien elles prennent un autre risque considérable, celui d'affaiblir encore plus le taux d'autosuffisance alimentaire du pays qui plafonne déjà à moins de 40% des besoins exprimés en calories.
Karine Nishimura avec nous de Tokyo. <musique> 9h34 sur France Inter. Dans moins de 10 minutes, l'invité du Mag Éco, c'est Christelle Bory, la PDG du groupe minier et métallurgique Eramet. Mais avant cela, zoom sur les matières premières du petit déjeuner. Et vous le savez, de l'autre côté du poste, à quel point elles ont augmenté l'année dernière, le cacao, le jus d'orange et en particulier le café. Comment l'expliquer ? Notre reporter Timothée David a rendez-vous près de Lille, à la Madeleine. C'est là qu'il nous emmène dans l'usine de café Méo. Méo, c'est le premier acteur français du marché.
Bonjour.
Timothée ?
Exactement.
Enchanté, Edgar.
Merci de m'accueillir ici.
Dans notre salle de torréfaction. Là, on a un torréfacteur qui tourne devant nous. On voit la chambre de torréfaction en rotation. Globalement, c'est un sèche-linge. C'est vraiment le même principe. Il y a un tambour qui va tourner de la même manière qu'un sèche-linge. Dedans, on va pulser de l'air chaud à environ 200 degrés. Cet air, on va maintenir le café à l'intérieur pendant 15 minutes. La torréfaction, c'est une réaction de caramélisation. C'est la même chose que quand on met par exemple un steak sur la poêle et que ça brunit, c'est là une réaction qui va s'attaquer au sucre et les transformer pour en faire tous les arômes qu'on connaît du café.
Les machines, vous en avez combien du coup ?
Au total, on en a 9 torréfacteurs. Ça nous permet de torréfier au total 34 000 tonnes à l'année avec l'ensemble de nos torréfacteurs. Donc moi je suis Edgar Méoxon. Je travaille dans l'entreprise Café Méo depuis bientôt 5 ans désormais. Entreprise qui a été fondée par mon grand-père en 1928, que mon père dirige actuellement et dont je suis amené à prendre la succession. On a le prix du café qui, depuis justement 2020, a été multiplié par un peu plus de 3. Dans les grandes lignes, le marché, si on partait d'une base 100 en 2020, fin 2024, on était environ 250 et début 2025, en février, deux mois plus tard, on était à 440. Et là, on est retombé, entre guillemets, à plutôt 380. Donc maintenant, le seuil normal pour acheter du café, c'est le pic historique. C'est un peu une sorte de rééquilibrage du marché qu'on voit. Ce qui est vraiment gênant, c'est la soudaineté avec laquelle ça s'est fait. Là, c'est un mur qu'on s'est pris. Donc voilà. Donc, en fait, c'est un peu une tempête parfaite qu'on a vécue. Donc, premier producteur mondial, le Brésil. Deuxième, le Vietnam. Troisième, la Colombie. Ces trois pays ont tous subi des aléas climatiques majeurs au cours des quatre dernières années. En plus de ça, il y a eu le contexte géopolitique mondial. D'abord, il y a eu le conflit israélo-palestinien avec la fermeture de la mer Rouge. Ça a recréé des congestions sur le trafic maritime mondial. Dernièrement, l'annonce des droits de douane du gouvernement Trump, il y a beaucoup de bateaux qui ont arrêté d'aller vers les États-Unis. Une des autres causes du problème, c'est la guerre en Ukraine, qui a fait s'envoler les cours du pétrole à l'époque. Et finalement, quand une matière première importante comme le pétrole a des forts mouvements de marché, la deuxième matière première où il y a le plus de spéculation dans le monde, où il y a le plus d'échanges, c'est le café. Ce qui a fait que parfois, au sein de journées, le marché a pu s'envoler dans un sens ou s'effondrer sans qu'il y ait de cause réelle fondamentale sur le café derrière. Avec nos fournisseurs, parfois quand le marché monte, on leur dit « écoute, là, c'est de la spéculation, moi j'ai besoin d'acheter le café, je sais que tu vas continuer à gagner ta vie si je te l'achète à tel prix ». Et surtout, de l'autre côté, on est très transparent avec nos clients, où on leur montre parfois nos livres d'achat, « accompagnez-nous, ne nous laissez pas mourir ». Et là-dessus, on a eu vraiment un discours qui a été entendu de la part de la grande distribution française cette année. On n'a pas fait de concessions sur la qualité, ça c'est certain. Ce qu'on a fait, nous, c'est ce qu'on a surtout optimisé nos process. Là, désormais, on travaille beaucoup plus en flux tendu, ce qui nous a permis d'avoir l'assiette financière pour absorber cette hausse.
Face à cette augmentation du prix du café, Méo parvient encore à s'adapter. Et même à racheter un de ses anciens concurrents, la marque Le Gall, qui, elle, n'a pas réussi à résister. Dans la famille Méoxone, les propriétaires de Méo, on estime que rarement le cours du café n'a été aussi déconnecté de phénomènes réels. Giuseppe Lavazza, un autre grand nom du secteur, s'est montré lui très critique ces derniers mois, dénonçant des phénomènes de spéculation. Régulièrement, des accusations similaires visent des matières premières, comme le blé. Alors, jusqu'où la financiarisation des matières premières agricoles fait-elle monter les prix ? Me voici maintenant à Paris, dans le quartier de la Défense, chez Euronext, des grandes plateformes boursières. Ici, on ne cote pas le café, mais d'autres produits comme le blé, le maïs ou encore le colza.
Enchanté. Enchanté, Ben.
Merci beaucoup. On va aller au 6e.
Ok.
Comme ça, je vais vous montrer, je vais vous faire de la visite.
Camille Bedin, je suis membre du comité exécutif d'Euronext et j'ai notamment la charge des matières premières pour le groupe. Le rôle d'Euronext, c'est d'organiser cette rencontre entre l'offre et la demande, de faciliter la négociation pour permettre la formation du prix, d'opérer ce marché et d'offrir de la transparence sur les échanges qui ont lieu sur ce marché.
Et un marché qui fonctionne bien, quand ça se repère, comment ?
Un fonctionnement des marchés efficient, c'est un marché où l'offre et la demande sont quelque part le reflet de la réalité du marché physique. La demande, elle est plutôt en réalité assez stable. Elle est assez peu élastique au prix dans les matières premières agricoles, puisque on a toujours un besoin de nourrir la population, de nourrir les animaux.
Mais l'offre et la demande amènent parfois des variations de prix qui ne sont pas le reflet de phénomènes réels, comme le sont des sécheresses ou des typhons. Et c'est d'ailleurs une des interrogations du marché du café. On entend souvent dénoncer les conséquences de la spéculation. Est-ce qu'on a raison d'en faire autant à ce sujet ?
Les spéculateurs, ils ne peuvent pas, eux seuls, provoquer une hausse durable des prix. Leurs achats peuvent amplifier la hausse à court terme, mais ces effets, en réalité, ils restent temporaires. Ils affectent finalement assez peu le consommateur final. Par ailleurs, ce que vous appelez les spéculateurs, leur présence assure qu'il y a en face d'un acheteur un vendeur. Ils offrent avant tout de la liquidité. Ils permettent que les prix soient les plus resserrés possibles entre l'offre et la demande sur les marchés. Et donc, c'est une composante fondamentale d'un fonctionnement correct des marchés de matières premières.
La semaine dernière, le groupe d'études Cyclope a publié son 39e rapport. C'est la bible annuelle des marchés des matières premières qui fait le bilan de l'année passée et dessine des perspectives pour les mois à venir. Je retrouve le président de Cyclope, Philippe Chalmin, dans son bureau de l'Université Paris-Dauphine.
Paradoxalement, l'année 2024 aura presque été une année de calme sur les marchés mondiaux qui ont fait preuve d'une certaine résilience On a eu d'excellentes récoltes agricoles, ce qui a tiré plutôt les prix agricoles vers le bas. On a eu peu de tensions au fond sur les marchés des métaux et sur le pétrole, une presque relative stabilité des prix. Le seul compartiment qui a été particulièrement tendu, c'est le petit déjeuner, le cacao, 126% de hausse. Le café, on peut mentionner aussi le jus d'orange, le beurre et la gomme arabique venant du Soudan, qui est utilisée en particulier dans les boissons carbonées. Mais en dehors de ce petit déjeuner, l'année aurait été relativement calme s'il n'y avait pas eu de premier frémissement avec l'élection de Donald Trump. Quant au petit déjeuner, soyons honnêtes, les États-Unis n'ont pas un poids déterminant ni sur le café ni sur le cacao. On attend simplement quelles pourraient être les conséquences éventuelles de ces fameux droits réciproques auxquels vont être soumis un certain nombre de pays producteurs. Et donc, ce sera intéressant de voir, au bout du délai de 90 jours depuis le 9 avril, comment vont évoluer ces fameux droits réciproques.
Matières premières agricoles, quelle réalité derrière les hausses de prix? C'était le reportage de Timothée David.
France Inter, on n'arrête pas l'écho, Alexandra Ben Saïd.
Et nous sommes toujours au chapitre matières premières, mais là nous passons aux métaux. La PDG d'Eramet est notre invitée. Bonjour et bienvenue Christelle Bory.
Bonjour.
Vous êtes PDG d'Eramet. À partir de lundi, vous serez seulement, si je peux dire, présidente, puisque vous cédez votre poste de directrice générale. Pourquoi est-ce qu'on fait ce choix? Est-ce que ça change quoi?
Alors, c'est un choix d'abord purement personnel. J'ai 61 ans, j'ai fait 2 mandats, une transformation réussie du groupe. Mon mari est plus âgé que moi et on s'était promis qu'une fois que j'aurais passé 60 ans, on allait passer un peu plus de temps ensemble. Donc c'est un choix purement personnel, que peut-être peu font, mais que nous avions décidé de faire ensemble.
Ben merci pour la franchise de l'explication. Eramet, je vais le dire parce que ce n'est pas un groupe très grand public. Hein. Vous êtes le groupe français des mines et des métaux, 3,5 milliards quasiment de chiffre d'affaires. Alors avec les métaux, ça bouge beaucoup, hein, les chiffres d'affaires.
Oui, là c'est un chiffre d'affaires de bas de cycle.
Vous produisez du lithium en Argentine, et peut-être en Alsace, on en parlera, du manganèse au Gabon, du nickel en Indonésie, et aussi en Nouvelle-Calédonie. Vous êtes le premier employeur privé du Caillou. 1 an après la crise sociale et politique, dites-nous Christelle Bory, est-ce que l'usine d'Eramet produit à 100% de ses capacités?
Alors non, elle ne produit pas à 100% de sa capacité, loin de là, parce que le territoire est toujours bloqué. On n'a pas accès en fait à tout le domaine minier et donc l'usine est peu et mal alimentée, donc elle ne produit qu'à près aux 2/3 de sa capacité. Mais je pense que ce qui se passe en Calédonie est très triste, hein. Moi c'est le mot qui me vient le premier à l'esprit, c'est que le territoire a été quasiment détruit, l'économie est totalement à bout de souffle et il faut trouver une solution pour cette filière nickel, qui est aujourd'hui totalement déficitaire. Les usines sont totalement déficitaires, toutes. Une a fermé, 2 sont en survie, donc subventionnées par l'État.
C'est votre cas?
C'est notre cas. Donc, Eramet n'est plus économiquement exposé à la SLN. Hein. Nous continuons... La société Le Nickel que nous opérons en Calédonie. Nous continuons à l'accompagner industriellement, opérationnellement, mais c'est l'État qui finance cette société, puisque en fait, il n'y a plus de modèle économique.
Et qui finance donc les salaires, puisque, je le disais, vous êtes le premier employeur privé.
Alors, il finance toutes les pertes de la société, et effectivement, donc, les salaires.
Christelle Bory, longtemps, nous, Français, nous, Occidentaux, pourrait-on dire, nous ne nous sommes pas vraiment préoccupés de notre approvisionnement en métaux. Mais aujourd'hui, les observateurs nous décrivent une course mondiale. Est-ce que vous, sur le terrain, c'est ce que vous vivez? Une compétition de plus en plus dure?
Alors, c'est clairement une course mondiale. Alors, les métaux ont toujours été au centre de la géopolitique, pour une raison qui est assez simple, c'est que la géologie, la nature a mis les métaux à certains endroits, et il se trouve que les pays producteurs ne sont pas les pays consommateurs. Donc, c'est les matières premières, depuis toujours, elles doivent voyager beaucoup, donc Donc tant que le monde est ouvert, libre, fluide, ça marche à peu près bien. Quand il commence à y avoir des tensions, et on a beaucoup de tensions actuellement, ça marche moins bien. Et puis, ces matières premières, certaines d'entre elles sont absolument critiques pour un certain nombre de chaînes de valeur stratégiques pour nos pays, que ce soit la défense, l'aérospatiale, maintenant toute la transition énergétique, l'électronique, les aimants permanents, donc les batteries. Les Chinois, notamment, ont une conception totalement intégrée de la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'ils ont très vite compris que s'ils voulaient maîtriser ces industries stratégiques, il fallait qu'ils maîtrisent toutes les étapes de la chaîne de valeur, y compris la partie minière.
Ça veut dire que maintenant, la Chine a des mines et elle va jusqu'au raffinage. Et il me semble que pour les terres rares,
elle va
domine.
Beaucoup plus loin. Je prends l'exemple de la batterie BYD, que tout le monde donc le connaît, le plus grand constructeur de voitures électriques chinois, qui il a toutes les étapes de la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'il fait ses batteries, il fait ses matériaux pour cathode, il fait ses précurseurs, il raffine le métal et il a des investissements dans des mines. Et il fait tout ça pour être certain de parfaitement maîtriser sa chaîne de valeur et de ne dépendre de personne pour son alimentation. Il se trouve que donc la Chine, depuis 20 ans, investit sur la mine et les métaux.
Elle est partout, ça veut dire qu'elle est partout
dans
tous les pays.
Sur les 20 dernières années, elle a dépensé 230 milliards en dehors de son territoire pour sécuriser des gisements miniers. 230 milliards, en 2023, c'était 20 milliards sur une seule année. Donc, elle a effectivement sécurisé des mines en Afrique, en Amérique latine, en Indonésie énormément pour le nickel. Et donc, elle maîtrise cette première étape. Et puis après, elle maîtrise fortement la seconde étape qui est le raffinage. Aujourd'hui, sur les matières critiques, la Chine raffine entre
les matières critiques.
70% et 90% de ces matières. Alors, les matières critiques, c'est justement ces métaux qui sont considérés critiques parce qu'ils alimentent des chaînes de valeur stratégiques.
Est-ce que ça veut dire, je vois l'Agence internationale de l'énergie qui alerte le reste de la planète sur une dépendance qui ne cesse d'augmenter à la Chine pour les métaux critiques dont vous venez de parler. Est-ce que ça veut dire qu'on est en risque de pénurie, que s'il y a quelque chose qui se passe mal avec la Chine, on risque de voir nos approvisionnements coupés ?
Alors, il y a un vrai risque, effectivement. On n'est pas en risque de pénurie parce qu'on manque de métaux dans le monde. En fait, il y a suffisamment de métaux disponibles sur la planète pour alimenter nos chaînes de valeur. Le problème, c'est dans quelles mains sont-elles ? Et ça s'est beaucoup concentré sur les dernières années. Juste donner l'exemple du nickel. Aujourd'hui, quand on prend le raffinage de nickel, il est à 60% en Indonésie, détenu par des Chinois. Et si on rajoute la Chine, 75% est raffiné par des Chinois. Si les Chinois décident de ne plus vendre ce nickel, on est coupé de cette alimentation. Et ce qui est embêtant, c'est que les Chinois ont commencé il y a 20 ans, ont sécurisé, comme je l'ai dit, mais maintenant, les États-Unis on se rattrape et on voit que Trump le
alors
fait
voilà.
Très rapidement.
Vous devancez ma question. Quand on voit que Donald Trump, je le rappelle pour les auditeurs, il s'intéresse aux ressources naturelles, au sous-sol du Groenland, il a obtenu un accès aux minerais ukrainiens. En ce moment, il y a des discussions avec la RDC, le Congo, qui a tellement de richesses dans son sous-sol. C'est une nouvelle donne qui vous inquiète, Christelle Bory ?
Alors, c'est effectivement inquiétant parce qu'il va très vite, alors avec des méthodes critiquable, mais il va très vite, il fait effectivement des deals. Donc on avait déjà la Chine qui en avait pris une moitié au niveau minier et 70% à 90% au niveau raffinage. Les États-Unis essayent de prendre ce qu'il reste. Donc si l'Europe ne bouge pas, il ne va plus rester grand-chose et on va être dépendant soit de l'un, soit de l'autre pour notre alimentation en matière critique. Et ça, c'est un problème de souveraineté majeur pour l'Europe.
Une question encore sur Trump quand même. Un des auteurs du rapport Cyclope qu'on a entendu dans le reportage, dont on a parlé dans le reportage, explique que la course actuelle aux métaux et minéraux ravive, je le cite, l'histoire dans sa forme la plus crasse avec un retour des empires et des annexions de territoires. Est-ce que Trump a fait tomber des tabous au sujet des
Alors,
métaux ?
Moi, je trouve, dans les interactions que je peux avoir avec un certain nombre de pays producteurs, qu'effectivement, ça a désinhibé, un certain nombre de gouvernements qui se disent, en fait, finalement, dans ces deals, moi, j'ai une arme. Ça s'appelle mes matières premières. Jusqu'à présent, je les vendais normalement sur les marchés. Maintenant, je peux en faire vraiment un outil de négociation d'autre chose. Et donc, on voit monter des nationalismes, mais aussi, j'allais dire, des bras de fer liés aux matières premières. Et ça, ça peut être inquiétant.
Christelle Bory, l'Europe est au niveau ? Face à ça, vous nous avez décrit la Chine, les États-Unis, l'Europe, elle a des listes, elle veut ouvrir des sites, des mines en Europe, mais aussi des sites de recyclage pour ces métaux. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est au niveau?
Alors, l'Europe, déjà, elle n'avait pas pris conscience du problème. Maintenant, elle a pris conscience du problème. Bon, la prochaine étape, c'est d'avoir les outils et les financements pour rattraper. Et là, on n'y est pas encore. Sur l'extraction minière en Europe, d'ailleurs, le Critical Raw Material Act dont vous parliez tout à l'heure de l'Europe vise un objectif de 10% en 2030. Donc déjà 10%, c'est ambitieux, d'extraction de nos besoins sur le territoire européen. Mais ça veut dire que 90% doit venir d'ailleurs. Et donc, il faut que ces 90%, l'Europe les sécurise, soit via des accords commerciaux, diplomatiques, avec des pays producteurs, soit en finançant des investissements miniers dans les pays en question. Et là, on n'a pas les outils de financement aujourd'hui en Europe pour le faire. Sur l'extraction, en Europe, il y a effectivement quelques matières, mais la géologie n'est pas très riche pour toutes ces matériaux critiques en Europe. Et 10%, ça correspond à peu près à la réalité géologique. Mmh. Et on voit que même les quelques projets aujourd'hui, il y en a au Portugal, il y en a en Serbie,
on parle de lithium, en France, là,
ouais. Ils ont quand même beaucoup de problèmes d'opposition des populations locales. Donc, ouvrir des mines en France, ouvrir des mines en Europe aujourd'hui, c'est compliqué, ça prend du temps. Mais donc, on n'y est pas.
Mais c'est peut-être à juste titre, Christelle Bory, parce que je vois aussi, par exemple, votre projet au Sénégal. Je vois toute la presse locale sur les atteintes à l'environnement. Est-ce que la mine responsable, est-ce que l'extraction de richesses naturelles responsable, ça existe ?
Alors, la mine responsable, ça existe. Et d'ailleurs, au Sénégal, je pense qu'on est exemplaire. Ça sera une de nos premières mines qui sera certifiée IRMA, qui est le plus exigeant standard international en termes de mines responsables. Il y a eu des polémiques honnêtement totalement erronées au Sénégal où on fait les choses de manière extrêmement responsable en termes de gestion de l'eau, de biodiversité, de relations avec les communautés. Et la mine responsable, ça existe. C'est vrai que les mines n'ont pas bonne réputation parce que il y a beaucoup de petits mineurs artisanaux, notamment, qui ne font pas les choses correctement. Historiquement, la mine a fait beaucoup de dégâts environnementaux, mais on peut faire de la mine responsable. Ça coûte un peu plus cher, ça prend un peu plus de temps, mais c'est possible.
Une dernière question sur le projet que vous aviez, que vous avez suspendu sur le recyclage des batteries pour faire des métaux. Ça se passe à Dunkerque. Suspendu, est-ce que c'est une manière polie de dire que vous l'avez enterré ?
Non, on l'a suspendu parce que pour faire du recyclage, il faut qu'il y ait des matières à recycler. Donc, c'était du recyclage de batteries lithium-ion. Aujourd'hui, comme le décollage de la voiture électrique est lent, il n'y a pas, pour le moment, beaucoup de batteries usagées à recycler. Il faut, ou alors qu'il y ait ce qu'on appelle des scraps, des déchets de production, et les usines de production de batteries, elles ont quand même, pour le moment, un peu aussi du mal à démarrer. Donc, il n'y aurait pas beaucoup d'alimentation.
Donc
et puis surtout, ouais. On n'a pas de clients parce que les étapes de la chaîne de valeur derrière le recyclage ne sont pas localisées en Europe aujourd'hui. J'aurais des produits issus du recyclage aujourd'hui, je devrais les vendre en Asie. Donc, ça ne fait pas beaucoup de sens. Il faut, pour le recyclage, qu'il y ait une chaîne de valeur complète, ce que je disais tout à l'heure des Chinois. Et ces chaînes de valeur complètes n'existent pas encore en Europe. Donc, nous avons suspendu notre projet tant que ces chaînes de valeur n'existent pas.
Christelle Bory, la PDG d'Eramet, merci d'avoir accepté l'invitation d'On n'arrête pas l'écho.
Merci.
On n'arrête pas l'écho sur France Inter.
Sandrine Foulon, comme tous les ans à cette période, c'est un peu le casse-tête des ponts et des congés. Congés parfois imposés, c'est le cas de Robert qui vous a écrit. Il est obligé de prendre 10 jours dans l'année à date fixe, 5 jours l'été et le reste en mai et en décembre. Est-ce légal, vous demande-t-il ?
C'est parfaitement légal, Robert. La question revient effectivement souvent, mais je vous fais la même réponse. L'employeur reste le maître du calendrier. C'est son pouvoir de direction. Il doit bien sûr respecter ce que dit la convention collective et un délai de prévenance, au moins un mois à l'avance. S'il le souhaite, il peut même fixer les dates des 5 semaines de congés payés. Seule réserve, il n'a pas le droit de vous obliger à les prendre d'une traite, ni à l'inverse, de trop les fractionner. La loi impose que vous preniez 2 semaines consécutives entre le 1er mai et le 31 octobre. Sachez aussi que l'entreprise peut décider d'une fermeture annuelle en période d'activité basse, par exemple. Ça revient à vous imposer de poser des vacances à ce moment-là. Pour éviter le chômage partiel en cas d'événement exceptionnel, comme une crise sanitaire ou des difficultés économiques, il ne peut pas vous demander de solder vos congés. En revanche, même si vous avez déjà posé vos congés, l'employeur a le droit de les annuler, sous réserve encore une fois de vous prévenir à l'avance. Vous l'aurez compris, Robert, l'entreprise a une grosse latitude en matière de fixation des jours de repos.
Et que se passe-t-il, Sandrine, si ce sont tous toujours les mêmes qui doivent partir à des dates imposées? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de discrimination?
Là où travaille Robert, la décision concerne tout le monde, donc non, il n'y a pas de discrimination. Quand il faut organiser des roulements pour assurer des permanences, là, on peut comprendre que ça puisse faire râler si ce sont toujours les mêmes qui partent en juillet ou en août. Mais la direction ne peut pas décider à la tête du client, elle doit définir un ordre de départ et en informer chaque salarié. Parmi les critères, il y a la situation de famille. Dans le secteur public, avoir des enfants à l'école confère une priorité de droit. Ce n'est pas vrai dans le privé, mais dans la pratique, les parents sont souvent prioritaires. C'est le cas aussi si les salariés sont aidants. L'ancienneté pèse également dans la décision de l'employeur. Et quoi qu'il en soit, il devra faire en sorte que les conjoints mariés ou pacsés qui travaillent dans la même entreprise puissent prendre leurs vacances simultanément. Le choix des vacances, c'est vite une source de tension, surtout si les collègues ont peu ou prou le même profil. Rien n'empêche l'employeur de trouver des aménagements, proposer aux inconditionnels du mois d'août d'alterner une année sur deux. Ça peut être une solution.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot. Le Magéco va baisser le rideau, vous pouvez nous réécouter en podcast. Et si vous avez aimé l'interview de Christelle Bory au sujet des métaux, je vous signale le podcast pour enfants de France Inter. Ça s'appelle Les aventures du professeur Caillou et ça parle de lithium, d'or, de silicium, de cuivre et de mon préféré, le néodyme. Vous trouverez le lien sur la page du site.